L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, même avant d'aller à la parole de Dieu, j'avais à cœur de vous lire juste un texte dans Éphésiens chapitre 4. Et quand on était de l'autre côté, dans l'intercession à Tafila, dans mon esprit, j'ai eu ce verset-là qui venait dans mon esprit. Et en même temps, j'ai eu une parole qui, je crois, qui s'adresse à des personnes dans cette maison spirituelle aujourd'hui. Je vais juste lire le premier verset, Éphésiens 4, verset 11. Il est écrit, « Il a donné, dites donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Je vais m'arrêter là. Une des choses, quand j'étais de l'autre côté et on priait pour la réunion de ce matin, j'ai eu une vision très simple. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est que Dieu avait donné à son Église des cadeaux, comme on vient de voir ici, et il a donné. Il a donné les cinq ministères à l'Église. Mais ce matin, comme je priais, qu'est-ce que j'ai compris? C'est que j'ai vu ces cadeaux-là, mais qui avaient été bafoués, et au lieu d'être développés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que plusieurs ont été juste mis de côté, et puis les dons que Dieu a donnés à l'Église n'ont pas été célébrés. Et ce matin, moi, ce que j'avais à cœur de vous dire, avant même d'aller à la parole de Dieu, c'est que moi, je crois qu'il y a même des pasteurs parmi nous dans cette maison, mais vous avez été brisés ailleurs, vous avez vécu des choses, ou même, puisque vous avez tellement été blessé et meurtri, que vous vous êtes retiré même de l'église locale pendant un temps, et là, vous êtes ici ce matin, mais le Seigneur vous dit qu'il n'a pas fini avec vous. Il y a encore de l'espoir pour vous. Et si vous revenez vraiment au Seigneur, pas juste dans votre relation comme ça avec lui, mais en même temps dans le corps de Christ, vous allez voir que le Seigneur, il y a un plan spécifique pour votre vie où le Seigneur va restaurer vos vies. Et là où en même temps, quand le Seigneur place en nous un don, un appel sur notre vie, cet appel-là, c'est pas pour rien. Et Dieu nous appelle à rentrer dedans, enfant de Dieu. Croyez-vous ça ce matin? C'est important. Et puis, moi, je crois qu'on est dans une saison présentement où le Seigneur est en train de restaurer des vies, où le Seigneur est en train de vraiment prendre des personnes, un cadeau qui a été, au lieu de recevoir ce cadeau-là, au lieu de le développer, au lieu de prendre ce cadeau-là et dire, wow, c'est un don pour l'Église. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tassé, on l'a écrasé, on l'a mis de côté, mais le Seigneur est en train de dire, l'heure est arrivée maintenant pour une restauration où on va développer ce beau cadeau-là et la gloire de Dieu va venir sur ce cadeau-là. Si cette parole-là est pour vous, recevez la parole dans vos cœurs et laissez le Seigneur le faire en vous. Amen. Amen. Moi, je crois qu'on est vraiment, comme je disais, dans une saison de restauration. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous, vous êtes arrivés ici, où vous avez été meurtri, brisé, peu importe qu'est-ce que vous avez vécu, mais c'est le temps que le Seigneur fasse son travail complet dans vos vies. Amen. Moi, je crois ça. Si vous êtes ici ce matin, et le message que j'ai pour vous, je vous parle ce matin, et je crois que ça vient du Seigneur, c'est votre valeur, votre rachat. Et on va voir ensemble, selon la parole de Dieu, que nous avons une valeur, que le Seigneur nous aime avec un amour éternel, inconditionnel, et Dieu vous aime passionnément. Et il y a certaines personnes d'entre vous ici, même, je vais vous lire des versets, je vais même commencer à juste lire la parole de Dieu, puis là, vous allez dire, ben, je connais tout ça. Mais je peux vous dire, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'ai prêché sur la révélation de la croix. J'ai prêché sur l'infirmerie du Saint-Esprit, si vous en rappelez. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? On entend des choses et on dit, je connais ça. Et le problème, justement, c'est qu'on le connaît dans nos têtes, mais on ne le connaît pas dans notre esprit. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est que ça passe de la tête, mais que ça vienne vraiment dans notre esprit pour qu'on vive un changement véritable. Moi, je crois que Dieu nous appelle en tant qu'Église, que cette Église soit, oui, un hôpital où les gens viennent pour être restaurés et être guéris. Mais pas juste recevoir des soins, enfant de Dieu. Savez-vous ça? On peut être à l'hôpital et ne jamais vivre la chirurgie totale. Si vous arrivez ici avec un cancer sur votre bras, mais ça se peut qu'on doit amputer des portions du cancer pour l'enlever, pour finalement avoir une vraie guérison. On peut mettre un gros plaster, mais la guérison ne viendra pas. Alors aujourd'hui, moi, ce que je crois, Dieu, le Saint-Esprit veut faire un travail profond dans nos cœurs pour vraiment effectuer une guérison. Mais vous devez coopérer avec le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, lorsque la parole de Dieu va être relâchée, ce que Dieu s'attend de vous, c'est que vous laissez le Seigneur faire sa job. Ça veut dire que vous allez ouvrir votre cœur et dire, Seigneur, viens guérir ces parties-là. Vous savez, il y en a qui ont été meurtris pendant des années et des années de temps. Il y en a certains d'entre vous, vous avez souffert le rejet peut-être par votre épouse, votre époux. peut-être par des parents, peut-être par la famille, peut-être par tout ce monde-là, et vous avez souffert du rejet. Mais le rejet, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des blessures. Et si on ne vit pas le miracle d'une guérison dans nos cœurs, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir cette blessure-là toute notre vie. Mais je sais que c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit blessé toute notre vie. Amen? C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit comme ça toute notre vie. Ce que le Seigneur, il veut, c'est que si on est comme ça, on arrive blessé, bien l'heure est arrivée pour nous de dire, Seigneur, je reçois véritablement la guérison. Et en passant, certainement des fois, on a besoin d'en parler. Des fois, on a besoin de passer par des temps de prière et tout ça. Mais en même temps, moi, je peux vous dire, je crois que le Seigneur est assez puissant et qu'il est capable, dans un instant, de tout guérir. Si vous avez besoin de parler et des fois juste partager votre cœur et qu'on prie, j'ai pas de problème avec ça. On le fait souvent dans la relation d'aide, il n'y a pas de problème. Mais j'ai également ma foi relâchée pour une guérison instantanée. Amen. Est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Est-ce que votre Dieu est assez grand ce matin? Moi, mon Dieu est assez grand, où le Seigneur est capable de vous visiter par son Saint-Esprit, mettre un baume de guérison et tout d'un coup, vous êtes guéri. Moi, je crois, je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur veut faire de cet hôpital une place, oui, où d'autres personnes vont venir pour être guéries, mais en même temps, c'est que les anciens malades ont été guéris surnaturellement et sont maintenant des instruments de guérison pour les autres. Amen. Moi, je crois ça. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit blessé toute notre vie. C'est pas la volonté de Dieu. On a tous vécu des choses. Il y en a qui c'est pire que d'autres. Mais on se compare pas, comme on a vu la semaine passée. On se compare pas puis dit, ben là, eux sont moins pires ou moi, je suis pire. Dieu nous connaît individuellement. On a chacun des besoins. Et ce matin, même avant à la prédication de la parole, j'avais dans mon cœur vraiment vous exhorter à relâcher votre foi tout au long. Et en même temps, moi, je m'attends qu'il va y avoir des guérisons, comme j'ai dit tantôt, surnaturelles. Je m'attends même pendant la proclamation de la parole, il y a des personnes sur l'Internet, à la radio, qui vont recevoir une guérison. Des fois, on pense, pour recevoir une guérison, faut venir en avant et recevoir la prière. Et oui, Dieu le fait dans ces moments-là, certainement. Mais vous savez, juste la proclamation de la parole peut amener une guérison. La preuve, c'est qu'il y a des gens sur l'Internet qui sont guéris dans leur maison, devant leur ordi, ou en auto, en conduisant leur auto, à la radio. Dieu, son Saint-Esprit n'est pas limité avec l'autel en avant ici. Le Saint-Esprit, si vous recevez aujourd'hui, moi, je m'attends. Ceux qui ont la foi et qui veulent, moi, je m'attends que Dieu va faire des miracles dans vos vies. J'ai l'audace de vous dire ça ce matin. Des miracles véritables. Est-ce qu'il y en a qui croient ce matin? Amen. Moi, je crois. Je crois que le Seigneur veut faire des grandes choses dans vos vies. Et c'est l'heure qu'on reçoive ces choses-là. Donc, on va prier ensemble maintenant. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ton cœur. On veut te remercier, Seigneur, que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu de plâtre, mais tu es un Dieu vivant et tu travailles encore par ton Saint-Esprit dans la restauration des vies. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on rend toutes nos pensées captives à ton obéissance. Seigneur Dieu, on fait le ménage. On empêche toutes sortes de distractions à venir nous voler cette parole. Et aujourd'hui, nous prenons la décision de recevoir cette parole dans nos cœurs. On ne dira pas, je connais tout ça. On va dire, oui, Seigneur, j'ai besoin cette révélation-là dans mon cœur. Et aujourd'hui, je te remercie pour les miracles. Je te loue à l'avance, Seigneur Dieu, pour les gens qui vont être délivrés de toutes sortes de choses. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'ai prié et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 20. Corinthiens chapitre 6, verset 20, dans la Bible du Semeur, il est écrit, « Vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » 1 Corinthiens 6, 20, je vais relire. « Vous avez été rachetés à grand prix. » Ça veut dire que Dieu vous valorise ce matin, que Dieu vous aime. Un grand prix. Quand on paye très cher pour quelque chose, c'est parce qu'on valorise cette chose-là. Mais même si on le sait intellectuellement que Dieu nous aime, on peut le savoir, puis on peut même le prêcher aux autres. Et comme j'ai prêché il y a quelques semaines la révélation de son amour, puis on dit, mais comment ça, on a besoin encore parler de ça? C'est parce qu'il y a encore des gens qui sont brisés ce matin. Puis encore des personnes qui ont besoin de vraiment vivre le miracle. Et vous savez, même si je prêchais chaque dimanche de cette année sur l'amour de Dieu, ça serait encore très bon. Savez-vous ça? Ça serait très bon parce que dans cette révélation de l'amour de Dieu, on vit des miracles. Je vais relire le texte. « Vous avez été rachetés » et on va voir ensemble ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? On chante des chants sur le rachat, notre rédempteur vit. On parle du rédempteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez été racheté à un grand prix. Il y a certaines personnes ici, vous dites peut-être dans vos cœurs, je le sais que Dieu m'aime, mais en même temps, votre estime de soi est tellement bas. Et c'est impossible de vraiment recevoir la révélation de l'amour de Dieu si votre estime de vous-même est très bas. C'est une chose super importante ici qu'on doit comprendre. Si on a reçu cette révélation-là, on ne se mépriserait plus. On ne se verra plus comme à terre comme ça. Et on ne cherchera pas en même temps notre amour ou ce déficit d'amour dans nos cœurs, on ne cherchera pas à droite et à gauche. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'aura pas non plus un esprit d'abattement sur nos vies. Un esprit d'abattement, c'est un esprit qui vient nous écraser et où on se sent tellement malheureux en dedans. On est tellement triste, tellement malheureux, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai, coudon? Comment ça je me sens comme ça? Comment ça je me sens déprimé, angoissé, opprimé? Il y en a certains d'entre vous avez même eu le goût de commettre un suicide, tellement que vous êtes malheureux dans vos cœurs. Il y en a, vous dites, si je peux juste m'enfuir à quelque part pour fuir ma douleur, pour fuir les choses que je vis en dedans. Vous pouvez courir, vous allez courir longtemps, enfant de Dieu. Parce que même si vous cherchez à droite et à gauche, et même si vous connaissez intellectuellement que Dieu vous aime, si vous vivez ces choses-là que je viens de décrire, vous n'avez pas encore reçu la révélation dans vos esprits de l'amour de Dieu. Ça peut peut-être vous déranger, mais que ça ne vous dérange pas ce matin, que ce soit pour vous quelque chose, un cadeau ce matin que je vous donne, que vous avez encore l'opportunité aujourd'hui de recevoir surnaturellement la révélation de l'amour de Dieu en vous. Que Dieu vous aime vraiment. Et si vous savez que Dieu vous aime parce que vous êtes son enfant. Il ne vous aime pas pour aucune autre raison. Il ne vous aime pas parce que vous l'avez mérité, parce que vous avez bien performé, parce que vous avez telle chose, telle propriété, parce que vous avez de l'excellence dans un métier, à cause vous êtes valorisé par les êtres humains où les gens sont là et disent « Oh, cette personne-là est bien à cause de telle ou telle chose. » Non, Dieu nous aime parce qu'on est ses enfants. Si la chose, présentement, si vous cherchez à être valorisé aujourd'hui parce que vous avez fait de belles choses, vous avez peut-être œuvré, vous êtes fier de certaines choses que vous avez faites, et puis tout d'un coup, si on enlevait cette chose-là de votre vie, est-ce que votre valeur disparaîtrait du jour au lendemain? Si moi, je cessais d'être pasteur, est-ce que je serais en 10 000 morceaux et dire, je suis plus rien maintenant? Non. Si pasteur Jean n'était plus pasteur de la louange, est-ce qu'il dirait, je suis un rien maintenant? Non. On demeure un enfant de Dieu qui a été racheté à grand prix. Et ce matin, on va passer du temps, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot rachat. Êtes-vous là avec moi ce matin? Amen. Le mot racheté dans 1 Corinthiens 6, verset 20, c'est le mot agorazo en grec, c'est le numéro 59 pour ceux qui aiment faire des recherches dans Strong's, la concordance. Ça veut dire être sur une place de marché, s'y activer, y faire des affaires, acheter ou vendre. Généralement traduit par acheter ou racheter. Une des choses qu'on doit comprendre, puis c'est un petit peu théologique ce matin, il y a des choses que je vais vous partager qui peut-être ça pourrait être un peu compliqué, puis je vais vraiment essayer de simplifier ça pour que ça soit facile pour nous digérer ça ensemble. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est que Adam, quand il a choisi de servir Satan, même si Dieu est à son créateur, Adam s'est enfui de Dieu. Vous comprenez ça? Il s'est enfui de Dieu. Et dans cette position-là de fuite, il a choisi un autre maître. Et on sait c'est qui l'autre maître, c'est Satan. Et Satan, c'est un mauvais maître, vous savez ça. Satan, c'est un méchant maître. Mais Adam et tous ses descendants ont commencé à suivre le mauvais maître. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans son amour, il savait que l'être humain était pris avec un mauvais maître. Il savait que l'être humain était prisonnier, esclave de ce mauvais maître, qu'il était là, esclave de la nature pécheresse. Parce que le moment que Adam a été contaminé par le péché, tous ses descendants devenaient pécheurs également. Donc, l'être humain, c'était absolument impossible pour lui de revenir dans cette relation d'amour avec le Père. Donc, pendant tout ce temps-là, Adam il a fui son Dieu, son Créateur, pour servir un mauvais maître. Et là, ce mauvais maître était là et puis a terrorisé cet homme. Et puis là, on a vu toute la malédiction qui est venue dans le monde. La guerre, toutes les choses atroces que vous pouvez imaginer dans le monde sont le résultat de la chute. Amen. On sait que c'est pas le cœur de Dieu, la guerre et tous les crimes violents qu'on peut entendre parler aux nouvelles. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, pour ses enfants, ça a toujours été pareil. Pour Adam et Ève, imaginez où il les a placés. Il les a placés dans un beau jardin, n'est-ce pas? Il a pas placé Adam et Ève dans un pays du tiers-monde. C'est pas là. Et puis là, il dit, ben là, je vais voir s'ils sont vraiment bons, s'ils sont capables de gagner leur salut. Non, certainement pas. Dieu a placé Adam et Ève dans un beau jardin où il n'y avait rien de manquant, rien de brisé. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais l'homme a choisi de servir un autre maître. Mais là, dans cette situation-là où l'être humain était séparé de Dieu, le rachat, comment ça fonctionne? C'est que Dieu est venu racheter ces créatures-là qui l'ont détournés, qui se sont détournés de lui. Dieu dans son amour, puis ce qu'on va faire, on va regarder ensemble quelques versets ensemble concernant notre rançon. Notre rançon, c'est le prix que Dieu a payé pour nous ravoir. Et quand vous réalisez le prix qu'il a payé pour nous ravoir avec lui, vous allez dire, je ne devrais plus jamais me sous-estimer, je ne devrais plus jamais dire, ben, je suis un moins que rien, je suis ici, je suis comme ça, parce que vous êtes en train d'insulter celui qui vous a acheté. Vous êtes en train d'insulter celui qui vous a tellement valorisé, puis vous dites, tu n'as pas un bon goût, toi. Tu n'as pas bien fait tes affaires. Tu n'aurais pas dû m'acheter, toi. Je ne valais pas la peine. Mais non, vous allez réaliser aujourd'hui que Dieu vous aime véritablement, que c'est un amour surnaturel. Notre rançon a été versée à qui? Des fois, quand on pense, on dit, ben, on était esclaves de Satan, donc nécessairement, c'est Dieu qui a payé notre rançon à Satan, mais ça, c'est faux. Enfant de Dieu, on va voir dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 2. Éphésiens chapitre 5 et le verset 2. Il est écrit, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Écoutez bien ceci. « Dieu a lui-même payé notre dette, notre sentence, envers sa propre loi, par amour, parce que Dieu est un Dieu de justice. » Je vous relis. « Dieu a lui-même payé notre dette envers sa propre loi. » Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi de Dieu. Et l'être humain a décidé de pécher et de récolter la mort. Mais Dieu, dans son amour, lui, il savait que l'être humain était pris au piège, qu'il était esclave de cette loi-là. Cette loi de la malédiction, il savait que l'être humain ne pouvait pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, est venu vivre la vie parfaite et a lui-même répondu aux exigences de sa propre loi. Puis si vous dites, mais ça ne fait pas de sens, ça. Bien, laissez le Seigneur travailler dans vos cœurs cette révélation-là. Mais une des choses, c'est super important de comprendre ça, parce que Dieu ne nous a pas vendus à Satan. Dieu ne nous a pas vendus. Satan n'avait pas assez d'argent pour vous acheter, savez-vous ça? Il n'avait pas assez d'argent pour que Dieu dise, ah ben là, ça vaut le coup, je vais les vendre. Non, c'est l'être humain qui a fui Dieu. C'est l'être humain qui a décidé de désobéir à la loi de Dieu. Et par la suite, la malédiction est entrée. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Tout comme une personne qui va en prison et va payer sa dette envers la société, c'est pas la société qui est pas correcte là-dedans, n'est-ce pas? C'est pas le gouvernement du Canada ou un gouvernement qui décide, ben un criminel fait tant d'années en prison. Non, c'est pas les gardiens de la prison qui sont mauvais, parce qu'ils sont juste en train de marcher dans le chemin de la justice qui a été établie par l'État. Mais pareillement, selon la justice de Dieu, la pénalité ou la sentence devait être payé, on comprend ça. Et c'est seulement Jésus qui peut le faire. Et on va voir encore pourquoi aujourd'hui. Une des choses, ce matin, on va passer quelques temps juste examiner le message de la croix. Et si vous êtes là ce matin puis vous dites, bien, le message de la croix, je connais bien ça. Mais je veux juste vous rappeler une chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 2. 1 Corinthiens 2, 2, l'apôtre Paul a dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Christ crucifié. » L'apôtre Paul a dit ça. Je ne suis pas intéressé de rien entendre d'autre, sauf ça. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si pour nous, on est blasé quand on parle de ces choses-là, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, on est blasé, on se dit, ben là, je connais tout ça. C'est une preuve qu'on a passé à côté, où on n'a pas vraiment reçu la grandeur de cette œuvre dans nos cœurs. Je vais le relire, parce qu'il y en a qui sont incrédules. 1 Corinthiens 2:2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Christ crucifié. Quand on comprend cette révélation-là de la croix, on reçoit son amour. C'est la porte vers la puissance surnaturelle. C'est la porte vers la libération totale de toute oppression, de tout mensonge de l'ennemi. C'est l'endroit dans cette place de la croix, cette révélation de la croix, c'est l'endroit où je découvre ma valeur. Et aujourd'hui, c'est là où on va passer du temps, notre valeur en Jésus. Notre rançon a été versée à Dieu, par Dieu lui-même. Comprenez ça, Dieu lui-même a répondu à sa propre loi par amour, parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Mais là, vous avez dit, oui, on était rachetés, on était sur le marché des esclaves, servant un mauvais maître, mais comment est-ce que ça s'est passé? On a été racheté de quoi au juste dans nos vies? Bien, je suis content que vous avez posé la question. Parce qu'on va voir ensemble, Galates 3:13. Première chose qu'on veut voir, c'est qu'on a été racheté de la malédiction. Si vous êtes curieux et vous voulez vraiment passer du temps dans la malédiction, vous pourrez lire Deutéronome 28. Vous verrez toute la malédiction qui est là. C'est pas beau. Moi, j'aime mieux la bénédiction. Mais dans Galates 3:13, ça dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au bois ». Comprenez que la loi ne pouvait jamais sauver, mais la loi servait comme un outil pour révéler l'état de l'homme, comme quoi c'était absolument impossible pour l'être humain de sauver lui-même. Quand les commandements étaient là et puis il y avait la loi, ça se trouvait quand même que l'être humain chutait quand même. Puis même s'il essayait très bien, puis même s'il était super religieux, il essayait de vraiment répondre à la loi de Dieu, mais il se trouvait toujours en faillite. Il se trouvait toujours à quelque part, il avait manqué le but. Il avait péché quand même. Mais là, en Christ, qui a accompli parfaitement la loi, ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Moi, je dis amen. Étant devenu malédiction pour nous. Il nous a rachetés également de l'esclavage à l'esprit mondain. Savez-vous, on habite encore sur la planète Terre, même si on est citoyen du ciel, même si notre vraie patrie est au ciel, on habite encore sur la planète Terre. Et savez-vous que dans cette église, il y en a certainement des personnes qui sont tentées par les choses du monde, même encore aujourd'hui. Même, il y a des statistiques qui disent que 50% des personnes dans une église un dimanche matin, pour une congrégation de notre grandeur, 50% sont dans le milieu d'une crise. 50%. Je veux dire, la moitié des gens dans cette église, peut-être, sont dans le milieu d'une crise. Peut-être dans leur famille, peut-être dans leur couple, peut-être dans leurs finances, peu dans, intérieurement, dans leur pensée. Il y a des personnes en crise. Ça, c'est les statistiques. Mais moi, j'ose croire que ça peut être différent ici. J'ose croire que Dieu est capable de restaurer et que ces crises peuvent avoir les empreintes digitales du Seigneur où le Seigneur restaure et le Seigneur délivre. J'ose croire ça aujourd'hui que c'est possible pour nous. Les statistiques ne sont pas obligées d'être ici si nous ne croyons pas, si nous croyons différemment. Mais la réalité demeure qu'il y en a qui vivent des crises, qui vivent des difficultés, qui sont peut-être tentés ou qui sont esclaves encore. Galates 4, 3, 5, dans français courant, ça dit, « Nous de même, nous étions précédemment comme des enfants, nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. » Esclaves des forces spirituelles. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive, sans péché, le seul à le faire, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfant de Dieu. C'est merveilleux. Nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Mais quand Jésus est venu, il est venu nous racheter afin qu'on ne soit plus des esclaves de toutes ces choses-là. Mais quand il est venu nous racheter, c'était pas pour nous garder dans l'esclavage comme ça, mais c'était pour nous libérer. Amen. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Des fois, on pense, vous connaîtrez la vérité. Ouais, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Ça, c'est tragique quand on le connaît juste ici. Vous connaîtrez la vérité, mais ça veut dire le connaître véritablement dans notre esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on le reçoit, on est affranchi. Il y a une libération qui se produit. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre vous ce matin. C'est que vous soyez libérés de tout cet esclavage qui est peut-être là encore aujourd'hui. Il y en a parmi vous, on va aller ensemble dans Romains chapitre 7. Il y en a certains d'entre vous, peut-être vous dites, « Ben moi, ça fait des années que je vis avec des oppressions, ça fait des années que je vis des choses difficiles, où je suis tenté, où je vis un combat. » J'ai des bonnes nouvelles pour vous, enfants de Dieu. J'ai des bonnes nouvelles pour vous parce que le Seigneur a une provision pour vous. Mais il faut le prêcher souvent, cette révélation de la croix, parce qu'on peut l'entendre 10 000 fois et pas l'avoir reçu encore. Puis c'est ça le problème, des fois on pense qu'on connaît tout, mais on ne l'a même pas reçu dans nos cœurs. Mais si on est là et on dit, Seigneur, moi je veux vraiment le recevoir, le CD, l'infirmerie du Saint-Esprit, vous pouvez l'écouter 100 fois jusqu'à temps que le Seigneur vous le montre. Il peut vous montrer dans un seul moment, mais même ce matin, pendant qu'on en parle, moi, je crois que le Seigneur travaille par son Saint-Esprit, puis il révèle des choses dans vos cœurs, puis il va vous donner des clés pour vivre une vie différente. Romains, chapitre 7, verset 18, ça dit, l'apôtre Paul, là, remarquez, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux faire qu'est-ce qui est bien, mais j'y arrive pas. » Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes comme ça? Vous le savez? Il dit, je vais le dire, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Est-ce que vous avez déjà été dans cette place-là, dans votre vie spirituelle? Vous dites, « J'aimerais ça faire le bien, mais on dirait que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le pouvoir. » Mais l'apôtre Paul, ici, il s'adresse à vous. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Verset 22, « Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Et remarquez ce verset-là. Pensez-vous que les inconvertis, ceux qui se foutent de Dieu, ils prennent plaisir à la loi de Dieu? Non. Les inconvertis, ils ne vont même pas essayer de plaire à la loi de Dieu. Ils s'en foutent. Verset 22, ça dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, dans mon esprit, je veux plaire à Dieu. » C'est ça qu'il est en train de nous dire, Paul. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement ou de ma pensée et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Il y avait une lutte spirituelle en lui, enfant de Dieu. L'apôtre Paul, spirituellement, il voulait faire la volonté de Dieu, mais dans son corps, dans sa chair, il y avait une autre lutte. Il y en a qui disent, « Ben, moi, je n'ai pas de lutte avec la chair. » Mais vous êtes mieux que l'apôtre Paul. Verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? » Verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ici, on comprend. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » La solution à tous nos problèmes, la solution pour notre liberté contre cette lutte, c'est une autre lutte. Et c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Si on peut placer notre foi dans l'œuvre de la croix, l'œuvre tout accomplie, puis on met notre foi là, puis on dit, le Seigneur a tout accompli pour moi, voilà 2000 ans. Il y a une puissance pour moi. Dans 1 Corinthiens, on va aller ensemble, 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Et le verset 18, ça dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas votre puissance, vous avez besoin de la puissance de Dieu surnaturelle. » Pour marcher victorieusement. Et nous savons que lorsque le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, il a paru afin de détruire les œuvres du diable, et ce n'est pas pour qu'on marche encore dans l'esclavage au péché. Et de cette nature pécheresse qui est là, cette nature pécheresse qui veut nous garder captifs. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour nous libérer, nous affranchir totalement pour qu'on marche dans la sainteté, et la sainteté n'est pas possible par la chair. Et c'est là le problème dans nos églises, quand on essaye de faire plaisir à Dieu en essayant d'être chrétien, en essayant par l'extérieur de plaire à Dieu, mais c'est impossible de se changer par nous-mêmes. On a besoin de la puissance surnaturelle de Dieu en nous. Et là, quand on place notre foi dans l'œuvre de la croix, on est connecté comme un courant de puissance qui passe à travers nous. Et on peut vivre la victoire, on peut vivre victorieusement sur toutes les tentations, toutes les forces surnaturelles de l'ennemi. On peut vivre comme ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est en Christ. On est positionné en Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je marche dans la puissance du Saint-Esprit à chaque jour de ma vie, autant et aussi longtemps que je garde ma foi, pas sur moi, pas sur mon nombril, pas sur ma performance, mais sur Christ. Amen. Une des choses qu'on vient de voir ici, on était rachetés de la malédiction, de l'esclavage de l'esprit mondain et de la domination de la nature pécheresse. On l'a dit tantôt, je viens de vous l'expliquer, mais dans Tite 2,14, vous donnez une base biblique. Tite 2,14, c'est dit « Jésus s'étant donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. » Ou, dans une autre version dans la Bible du Sommeur, ça dit « l'injustice, nous racheter de toute injustice sous toutes ses formes. » Tout ce qui est injuste, Jésus nous a racheté de toutes ces choses-là. Imaginez. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On est zélé pour les bonnes œuvres. Une fois qu'on a été purifié et racheté. Romains 6, 14, ça dit le péché ou la nature pécheresse. Ici, dans ce texte-là, le mot péché, là, on devrait comprendre, c'est la nature pécheresse. Ça dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et la grâce, si on ne parle pas juste d'une faveur non méritée, et même que ça l'implique certainement, mais on parle ici de la puissance surnaturelle de Dieu pour marcher dans cette vie chrétienne. Amen. Quand le Seigneur nous a sauvés, c'est pas juste pour qu'on soit pardonné nos péchés, mais c'est qu'on marche victorieusement à chaque jour de nos vies. Parce que, comprenez ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Et même si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été adopté dans la famille de Dieu, mais si vous continuez à semer dans le péché constamment, bien ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc, dans votre vie chrétienne, vous allez récolter quand même la mort dans plein de niveaux. Peut-être vous semez des pensées de dépression, puis vous méditez sur des mensonges de l'ennemi. Mais ce que vous allez récolter, c'est le fruit de vos pensées. C'est vrai ça. Si vous pensez contrairement à la parole de Dieu et vous vous permettez le luxe de manger du junk food dans votre tête, ça va donner le junk food, la malbouffe dans votre vie. C'est super important ce matin. Si vous vous permettez le luxe de sortir du domaine de votre foi la semaine chez vous, là, dimanche matin, on est tous d'accord, on dit oui, je crois dans l'œuvre de la croix, oui, mais vous arrivez chez vous et vous commencez à penser, vous commencez à parler des paroles qui ne sont pas dans le cœur de Dieu pour votre vie, vous regardez juste au naturel, vous allez récolter le fruit de vos paroles. C'est vrai ça. Proverbe 23, 7, car il est comme les pensées de son âme. Vous pensez, ben moi, il n'y a personne qui m'aime, je vais toujours être comme ça, je suis dans telle situation, ça va toujours être comme ça. Et je peux vous dire, probablement oui. Parce que vous le dites et vous le croyez. Mais vous dites, ben regarde, ça ne va pas bien présentement, mais je relève la tête, je mets mes yeux sur le Seigneur Jésus. Il est ma source en toutes choses, il est ma délivrance, il m'a racheté. Alors, je te remercie Seigneur Dieu que toutes les pensées que l'ennemi voudrait me faire penser, aujourd'hui au nom de Jésus, moi je commence à vivre la différence. Je commence à me réjouir à l'avance pour les miracles dans ma vie. C'est un combat de la foi. Il y a un seul combat qu'on est appelé à vivre, enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. Si, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est vous faire shifter votre foi de la bonne place, l'œuvre de la croix. Il veut vous l'enlever, il veut shifter, que vous déplacez votre foi. Le moment que vous déplacez votre foi, vous mettez ça sur d'autres choses, vous allez vivre l'échec. C'est garanti, impossible. Si là, on pouvait vivre des victoires ailleurs que la croix, ben Jésus est venu carrément pour rien. Il aurait dû dire, ben faites ceci, faites cela, faites-vous baptiser, donnez de l'argent aux pauvres, faites ceci, et là vous allez être sauvés, vous allez vivre la victoire. Vous allez... Non, il est venu sur la croix, il y a une raison, puis on va le voir ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Une des choses qu'on doit voir maintenant, là, écoutez bien, il y a eu quelque chose de merveilleux, la vérité en ce qui concerne le sang. Faut qu'on en parle ce matin. C'est un petit peu théologique, je réalise, mais... On veut passer à travers ça parce que vous devez comprendre comment ça fonctionne. On voit les crucifix, on sait que Jésus est mort sur la croix, on a même écouté le vidéo « La passion du Christ », on a vu le sang couler, on a vu toutes ces choses-là, puis on se dit « Ben là, oui, il est mort, il a coulé son sang, mais on ne comprend pas nécessairement. Oui, j'ai entendu dire qu'il a fait ça pour moi. Pourquoi il avait besoin de faire ça pour moi? Je ne comprends pas, je ne comprends rien. » Est-ce que peut-être certains d'entre vous, vous dites ça? Vous allez comprendre. Une des choses, parce que je sais que le Seigneur va vous le révéler ce matin. Une des choses qu'on veut comprendre concernant le sang que Jésus a versé. Dans Genèse 2, 7, ça dit « Dieu souffla la vie en Adam ». Là, on s'en va dans la Genèse, OK? Dieu a soufflé la vie en Adam. Vous êtes tous avec moi, là? À ce moment-là, dans Lévitique 17-14, ça nous dit que la vie est dans le sang. Comprenez ceci, la vie est dans le sang. Le moment que Dieu a soufflé la vie dans l'homme, le sang, un sang pur, a commencé à couler dans les veines de l'homme Adam. Vous me suivez jusqu'à date? Le sang qui coulait dans ses veines, c'était un sang pur. Un sang pur. Adam était un homme pur, sans défaut, non mortel. Quand Dieu l'a créé, non mortel, il n'était pas supposé de mourir. Même les scientifiques aujourd'hui, ils disent, on ne comprend pas vraiment pourquoi les cellules, après un bout de temps, arrêtent de se reproduire. Parce qu'à partir de l'âge de 25 ans, ben avant 25 ans, nos cellules sont là dans notre corps et notre corps refait des cellules. On en perd, mais il y a toujours des cellules qui se reproduisent. Une des choses, après 25 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on perd des cellules, mais en même temps, on n'en recrée pas autant. Il y a une perte. Il y a plus de cellules qui meurent qu'il y en a qui reviennent à la vie. Juste une chose scientifique que je vous donne ici, là. Je ne suis pas scientifique, mais c'est une des choses qu'on comprend. À l'âge de 25 ans, on commence à vieillir tout d'un coup. Il y a moins de cellules qui se renouvellent. On commence à plus rider. On commence à vivre toutes sortes d'affaires. On vieillit. Avant 25 ans, on est tout beau. On est tout beau, on est content. C'est beau, c'est le fun. Mais après, on vieillit tout d'un coup, puis là, il faut se faire des chirurgies plastiques, toute la kit, là. C'est une joke. OK. Mais là, je vous explique tout ça pour vous dire que là, l'être humain a commencé à mourir. Le moment qui est mort, le moment qui a péché, parce que, comme on le dit tantôt, le salaire du péché, c'est la mort. Le moment que Adam a décidé d'échanger le Dieu créateur comme son Dieu et de servir Satan, un faux maître, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son sang a été contaminé par le péché. Une des choses que vous devez comprendre, que scientifiquement, le sang de nos enfants est toujours relié à cause du père. Le sang des enfants, OK, est créé dans le corps de l'enfant à partir du sang du père. Le péché est toujours transmis, cette nature pécheresse, la tâche originelle du péché, est toujours transmise par le père. Le sang humain fut contaminé par le péché. Et une des choses, la transmission du péché est continuelle sans un miracle. C'était impossible. Comprenez, Adam et Ève sont là, deux personnes qui ont choisi de se détourner de Dieu, sont contaminées par le péché avec la sentence de la mort dans leur corps. Et puis, comprenez que s'il y avait des enfants, bien, tous les enfants auraient le sang d'Adam qui coulerait dans leur veine. Donc, on sait que tous ces descendants-là seraient obligés de mourir également parce que ce n'était plus un sang pur, ce n'était plus un sang qui venait directement de Dieu dans l'homme, mais là, c'était un sang contaminé par la mort. Comprenez? Et cette mort-là continuait de père en fils. C'était continuel, c'est absolument impossible pour l'homme de se sauver lui-même. Devant cette réalité, nous sommes tous ici, là, à moins d'avoir été sauvés. Mais avant ce moment-là, nous étions tous pécheurs. Là, on est rendus des saints de l'Éternel. Mais tous pécheurs avec du sang impur en nous. Même si on est sauvés et on a des enfants, malheureusement, Floramé et Félicité, mes deux filles, là, sont pécheresses. Mais là, ils ont été sauvés aussi. Mais ils ont du sang contaminé. Et leurs enfants, même affaire, c'est toujours la même. Mais quelle est la solution devant tout ça? Quelle était la solution? Il y a une solution. Une prophétie avait été donnée 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 7,14, je vais vous lire ça, une prophétie. Ça ici, rappelez-vous aussi que dans Ésaïe, on parle ici des Saintes Écritures du peuple juif. Et donc, même le peuple juif qui ne croit pas encore aujourd'hui à Jésus, en Jésus, bien, ils ont ce texte-là dans leur Bible. Ça dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, ce qui signifie, dans Matthieu 1:23, Dieu avec nous. Remarquez, une Vierge aurait un enfant. Une Vierge aurait un enfant. Les gens, des fois, les inconvertis, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils disent, ben là, je crois en Dieu, mais voyons, c'est l'histoire de la Vierge, là, ça, je ne crois pas vraiment, c'est un petit peu poussé, là, c'est comme, je ne crois pas là-dedans. Si on ne croit pas dans la conception miraculeuse du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas croire dans un Sauveur. C'est impossible. Parce que si Joseph, on connaît le couple, Marie et Joseph, les parents qui ont élevé Jésus, si Joseph était le père biologique de Jésus, bien, Joseph aurait transmis la nature pécheresse à Jésus. Donc, Jésus, quand il aurait été mourir sur la croix, il ne serait pas mort pour notre dette de péché, mais il serait mort pour sa propre dette. parce que lui-même serait pécheur. Donc, à quelque part, l'être humain, séparé de Dieu, condamné à une sentence de mort, quelle est la solution? Il y en avait juste une. Dieu lui-même, il a dit, « Moi, je vais venir par mon Saint-Esprit. » Et on va lire ensemble dans Luc chapitre 1. Je vais vous lire cette histoire, l'histoire de Noël. On ne prend pas le temps de tout décortiquer ça à Noël. Hein? On a nos familles, ils sont toutes là, ils ont hâte d'aller manger de la dinde. Mais là, on est au mois de janvier, on a le temps là. Sans la naissance virginale, il n'y aurait pas de sauveur substitut, mais un martyr, tout simplement. Luc 1, 26 à 35, ça dit, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, ou on peut remplacer de son onction. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand Jésus est venu au monde, il est venu au monde avec un sang 100% pur, le sang de Dieu lui-même qui coulait dans ses veines. C'est pour ça que c'était le seul qui pouvait payer pour notre crime. Il était totalement innocent, il avait un sang pur, tout comme Adam et Ève ont eu au tout début. Les seuls sur la terre qui ont eu ce sang pur, c'est Adam et Ève et Jésus. Jésus est venu, il y avait ce sang pur qui est venu verser pour nous. Et là, vous vous dites, ben moi, je ne vois pas grand-chose. Je connais une dame, elle travaillait beaucoup, beaucoup, faisait toujours du ménage, puis comme elle a vieilli, elle dit, ah, je ne vaux pas cher, je ne vaux pas cher. Elle n'est plus capable de produire autant, là. Elle est plus fatiguée, puis elle fait un petit peu moins de ménage dans sa maison, puis elle dit, ah, je ne vaux pas cher, je ne vaux pas cher. On vaut très cher. On vaut très cher pour le Seigneur. Quand on considère le prix qu'il a payé pour nous racheter de cette malédiction, je peux vous dire, c'est correct de se valoriser. On ne se valorise pas dans notre propre justice. Ce n'est pas l'estime en soi, c'est l'estime en Christ. En anglais, j'appelle ça « Christ esteem », pas « self esteem », « Christ esteem ». Je suis en Christ, j'ai été sauvé par le Seigneur Jésus. Donc, je ne vais plus jamais me dénigrer, je ne dirai plus jamais « je suis indigne ». Hey, je suis digne. J'ai été parfaitement lavé. J'ai été parfaitement lavé, purifié. Le sang de Jésus, c'est un sang parfait, pur. Cessez d'insulter le Seigneur Jésus en disant que vous êtes indigne, en disant, dans notre personne, dans nos péchés, c'est ça, on ne méritait pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, une fois purifié, on est rendu digne, on a été déclaré juste, justifié. Il ne faut plus jamais insulter le Seigneur et dire « je ne vaux pas rien ». Ou même avoir des pensées de suicide. Il est tellement pécheur pour vous. Hier, quand j'étais dans la prière, c'est venu dans mon esprit qu'il y avait quelqu'un qui est dans cette maison, qui serait là, qui avait eu des pensées de suicide, puis que je devais en parler. Vous valez cher pour le Seigneur. Il s'est déplacé du ciel, il l'aurait fait juste pour vous. Juste pour vous, tellement il vous aime. Ne dites plus jamais que vous ne valez rien. Vous avez une valeur extrême pour le Seigneur. Considérez le prix. 1 Pierre 1,18 à 19. Ça dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Actes 20, 28, ça dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Par son propre sang. Éphésiens 2, 13. Maintenant, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'était la seule solution pour l'humanité qu'on était séparés de Dieu. C'était la seule solution, l'unique solution. Il n'y en a pas d'autre. C'était le sang de Jésus. C'est pour ça, moi, j'aime ça chanter des chants du sang de Jésus. Parce qu'à chaque fois que je parle du sang de Jésus, je réalise ma valeur pour lui. Comment il m'aime. Il y a eu une mode dans nos églises. Les gens ont dit, oh, on enlève les chants du sang, c'est trop dégueu, c'est trop... c'est la vieille alliance, on ne veut pas en parler. Ils n'ont rien compris. On enlève ces chants-là sur le sang. Il y avait une petite chanteuse juive qui chantait dans les studios d'enregistrement, enregistrant un CD chrétien. Puis elle demandait à l'auteur des chants, elle demandait la question, mais pourquoi tous ces chants sur le sang? Je trouve ça un petit peu wesh. Quand on comprend la raison pourquoi il a dû verser son propre sang, c'était pour nous racheter légalement. Mais pas nous racheter à n'importe quoi, là. C'est nous racheter pour ensuite nous libérer. Pour nous libérer. Galates 4, versets 6 à 7, ça dit, « Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, qu'on a été adoptés dans sa famille, purifiés, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie, « Abba, ô mon Père! » Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Non seulement on était sur le marché des esclaves, obligés de commettre des péchés, mais Christ, dans son amour, nous a rachetés. Et en plus, nous a rachetés pour être avec lui, pour nous libérer et pour nous accorder son héritage. Wow! Ça, c'est tellement la dimension de son amour, comment il nous aime. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le péché, moi je me souviens, j'avais demandé ça à ma mère dans le temps, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans. J'étais dans l'auto, je me souviens même où c'était, on était à Granby sur la rue Simons. J'étais dans l'auto, puis j'ai dit, « Maman, pourquoi là, dans l'Ancien Temps, dans le temps des Juifs, les Juifs, ils sacrifiaient des boucs, puis tout ça, des animaux, puis pourquoi là, Jésus il est venu mourir sur la croix, si ça marchait dans l'Ancien Temps, on aurait pu continuer à tuer des animaux, ça aurait fait moins mal à Jésus. Avez-vous déjà posé ça comme question? Mais pourquoi? Il y a une raison. Mais ça, moi, je n'aime pas ça, que Jésus est allé sur la croix. Il y a une raison. Hébreux 10, 4, ça dit, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Dans l'Ancien Testament, quand les gens offraient des sacrifices, c'était toujours temporaire. C'était comme, on va recouvrir les péchés pendant un temps, jusqu'à temps que le Messie vienne vraiment payer le prix. En passant, les sacrifices, on se dit, ouais, mais c'est dégueu, je lis ça dans Lévitique, c'est wesh, là. Savez-vous? Oui, c'est dégueu. Notre péché est dégueu aux yeux de Dieu. Puis Dieu voulait qu'on voit. Quand il y avait une bête qui mourait, là, c'est à cause de mes péchés. Puis je voyais, là, c'était une belle illustration que mon péché mène à la mort. Puis c'est cette bête-là qui a payé pour ma faute de péché. Sinon, ce serait moi qui aurais la conséquence. Mais vous voyez, Dieu, là, il travaille d'une bonne façon. Des fois, on ne comprend pas tout. Mais quand on s'arrête et on comprend, c'était temporaire, ça ne pouvait pas ôter le péché, ça pouvait juste recouvrir pendant un temps. Mais là, la bonne nouvelle dans Jean 1, 29, ça dit, « Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Là, ça va faire du sens, l'agneau de Dieu. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là, nos péchés ne sont plus simplement recouverts, sont totalement effacés, purifiés. 1 Jean 3, 5, ça dit, « Or, vous le savez, Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. » Pourquoi c'est important de parler de notre valeur? Si vous ne réalisez pas votre propre valeur, vous ne pouvez pas recevoir véritablement l'amour de Dieu dans vos vies. Et par la suite, vous ne pouvez pas aimer les gens comme Dieu vous appelle à aimer. Impossible. Si on ne s'aime pas soi-même, on se déteste. On se regarde dans le miroir et on se dit « Ouais, je suis donc bien laid. Je me déteste. » Mais pourtant, Dieu dit « Vous êtes une créature si merveilleuse. » Si vous regardez dans le miroir et vous dites « Je ne m'aime pas. Je suis laid. Regarde comment je suis habillé. C'est donc quétaine. » Je ne sais pas, je dis des choses. Là. Je suis plein d'affaires. Mais vous ne vous aimez pas. Alors, regarde ce que j'ai fait avec ma vie. On dirait « Regarde toutes les erreurs. » Puis là, vous êtes tout en train de vous écraser. Et là, vous arrivez à l'église, puis là, vous pensez que vous allez pouvoir aimer les gens quand vous vous détestez. Impossible. Impossible. C'est quoi la solution? Il y en a juste une. On l'a dit tantôt, il y en a juste une. ce que l'apôtre Paul a dit. Je ne veux rien savoir d'autre, sauf Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que ma foi, quand elle est là, je reçois la révélation de ma valeur. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe la domination du péché que j'avais avant dans ma vie, j'étais pris avec des affaires. J'étais esclave de telles choses où j'étais obligé, je pensais que j'étais une étiquette, que j'étais un alcoolique, que j'étais un batteur de femmes, que j'avais des étiquettes. En Jésus, ces étiquettes-là sont enlevées. Le sang de Jésus purifie. Et là, je ne prie plus pour vivre la délivrance. J'ai arrêté de prier, « Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais ça, fais ci. » Jésus a versé son sang et à ce moment-là, chaque goutte de sang, c'était pour votre délivrance. Vous avez été délivré. Arrêtez de prier d'être délivré. Entrez dans votre délivrance. Entrez dans votre délivrance. Là, vous dites, « Je ne le sens pas encore. » Pis ça, on n'est pas guidé par comment on se sent. Prenez un pas par la foi puis dites, « Jésus a versé son sang pour me délivrer. Je rentre par la foi maintenant dans ce statut d'homme délivré. » Un homme totalement délivré de toutes les chaînes de l'esclavage qui étaient dans ma vie autrefois. Nommez les chaînes que vous voulez, vous avez été libérés légalement par Jésus. Son sang a fait le travail pour vous, enfants de Dieu. Mais si vous voyez avec une étiquette, vous allez vivre cette étiquette-là, vous allez être malheureux toute votre vie. Dieu ne vous a pas sauvé pour vous garder malheureux. Ce n'est pas normal que les chrétiens ne soient pas heureux. On est censé être les chrétiens les plus heureux sur la terre. Parce qu'on était esclaves, mais on était libérés. Aujourd'hui, moi, je suis libre. Vous êtes libre. Si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous avez été affranchi. Vous êtes libre. Vous n'êtes plus des esclaves. Non seulement ça, qu'est-ce qui est merveilleux, quand Jésus a versé son sang dans le jardin de Gethsémané, nous savons que ça dit qu'il a coulé, il a sué comme des grumeaux de sang. Vous en rappelez de ce texte-là? Il suait dans le jardin d'Éden. Il suait tellement, là. Pourquoi pensez-vous? C'était à cause de toutes les angoisses que vous pouvez vivre. Il a versé son sang pour vous à ce moment-là. Si vous êtes angoissé, vous êtes un chrétien angoissé par toutes sortes d'affaires, il a versé son sang pour vous dans le jardin de Gethsémané. Quand il a reçu la couronne d'épines sur sa tête, on sait aussi que les couronnes d'épines à cette époque-là avaient et souvent ont du poison dedans. C'était comme s'enfoncer non seulement des épines qui faisaient mal, mais en même temps le poison qui était relâché dans son corps qui faisait très mal. Mais pourquoi? Nous comprenons par cela que ces épines, c'était pour payer pour votre oppression diabolique. Toutes les fois que l'ennemi vient vous écraser avec des pensées qui viennent de l'enfer, Jésus vous a racheté de ces pensées-là. Dieu vous a racheté de l'oppression de l'ennemi. Si vous dites, oui, mais moi, je suis quand même découragé, je suis déprimé, ou je vis des choses, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore relâcher puis abandonner ces choses-là à Dieu. Vous n'avez pas encore accepté d'être libéré par le Seigneur. Vous n'avez toujours pas encore accepté de vous abandonner à Dieu et dire, « Seigneur, je reçois l'œuvre de la croix dans ma vie. » En partie, peut-être vous avez été pardonné vos péchés, mais vous n'avez pas reçu l'ampleur de tout ce qu'il a fait pour vous. Est-ce que c'est possible en 2012, janvier 2012, que cette année, aujourd'hui, vous allez dire, « Tout ce que Jésus a fait, chaque fois qu'il a versé son sang pour moi, je réalise que j'ai une valeur. Si je réalise que payer ce prix tellement cher pour moi, je suis qui, moi, pour dire que je ne mérite pas? Si Dieu, le Créateur de l'univers, qui a tout créé, qui connaît toutes choses, lui, il a choisi de me sauver. Il a choisi de faire ça pour moi. Je suis qui, moi, pour dire que je ne mérite pas? Je suis qui? S'assassiner avec Dieu, ça ne vaut pas la peine. Lui, il a dit, vous valez la peine. Dieu a décidé que vous valez le coup. Il a dit, tu vaux la peine? Je vais le faire juste pour toi. Il vous aime. Aujourd'hui, on est là. Je veux vous inviter, pendant, pas juste entendre avec vos oreilles charnelles, mais les oreilles de votre cœur. Entendez la voix de Dieu qui dit, « Tu valais la peine. Tu valais la peine. Il est allé mourir sur la croix. Il a versé son sang pour vous. Tu valais la peine. » Est-ce que vous pouvez laisser cette voix en vous raisonner ou vous êtes là, non, 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 il y a toutes sortes de voix qui viennent vous déranger. Pouvez-vous le laisser vous dire que vous valez la peine? Ouais, mais j'ai été rejeté par tout le monde dans ma vie. Tu valais la peine. Dieu ne vous rejettera jamais. Tout le monde peut vous rejeter sur la planète, mais Dieu ne vous rejettera jamais. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu rempli d'amour qui vous aime spécialement et connaît même le nombre de cheveux sur votre tête, tellement qu'il vous aime. Mais si vous voulez avancer dans votre vie chrétienne, si vous voulez vivre des percées dans votre vie, à tous les niveaux, peu importe les domaines de votre vie, vous devez passer premièrement dans cette infirmerie du Saint-Esprit, vous devez obligatoirement recevoir la guérison de vos âmes, de vos cœurs, pour vraiment recevoir cette liberté. Sinon, vous allez toujours vous voir comme si je ne vaux pas la peine. Mais aujourd'hui, Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ, pendant que les musiciens s'avancent. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, pour un miracle. Un miracle, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que ta voix soit tellement forte dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs, que ta voix soit tellement forte que c'est impossible qu'ils entendent d'autres voix, toutes sortes de mensonges. Au nom de Jésus, maintenant, je prends mon autorité en Jésus et je commande à tout esprit de mensonge de quitter maintenant cette place. C'est des mauvais esprits qui veulent garder mes frères et mes sœurs dans l'esclavage illégalement. Au nom de Jésus, je viens contre ces mauvais esprits et je commande maintenant, au nom de Jésus, une liberté. Au nom de Jésus, on entend la voix de Dieu, le Père, qui dit, tu vaux la peine, tu as valu la peine, je t'aime avec un amour éternel. Laissez maintenant le Seigneur couler en vous son amour. Laissez-le le faire. Laissez-le vous guérir maintenant. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai... Laissez-le maintenant le faire en vos cœurs. Que ce baume de guérison coule maintenant dans vos cœurs. Merci Seigneur Dieu parce que tu le fais. Merci Seigneur Dieu parce que tu guéris mes frères et mes sœurs dans cette assemblée. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce sang que tu as versé pour nous. Merci parce que tu nous as délivrés de toute malédiction, que cette nature pécheresse n'est plus là pour nous dominer, mais nous avons été affranchis. Nous sommes libres maintenant. Nous sommes saints en toi, parce que nous avons dit oui, nous recevons ton pardon. Nous recevons ton pardon. On se donne à toi entièrement. C'est certaines personnes ici, vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Ce n'est pas trop tard pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Chaque dimanche, on peut le faire. Ça ne dérange pas, ça ne coûte pas plus cher. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, pendant que toutes les têtes sont penchées maintenant, je vais vous inviter. Si vous n'avez jamais dit, oui, je reçois le pardon de mes péchés aujourd'hui, puis je veux donner ma vie à Jésus-Christ, je vais vous demander maintenant de lever la main, là où vous êtes, et on va prier avec vous. C'est le message du salut aujourd'hui. C'est très simple, c'est très simple. C'est pas compliqué. Dieu vous aime. Gloire à Dieu. Amen. Puis on veut inviter nos... Vous faire élever la tête maintenant. On veut inviter aussi nos amis sur l'Internet, à la radio, à nous contacter à info@evqmedia.com. On est heureux de communiquer avec vous, vous encourager dans les voies de Dieu. En disant oui au Seigneur, vous dites simplement, je m'abandonne à Dieu, je m'abandonne à Dieu. Et le Seigneur nous prend là où nous sommes et le Seigneur fait ses miracles en nous. Il faut arrêter de se battre. Il faut arrêter de se battre et dire, on va le faire à notre façon. Il faut arrêter, il faut abandonner, dire, OK, Seigneur, je te laisse faire. Je te laisse faire le travail. Viens me guérir. Et le Seigneur va le faire. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.